faire un dog trip en terre viking avec son chien. C'est ce que propose Charles Arisa, guide polaire, lors de ses escapades dog-friendly dans le sud de la Suède. Un petit groupe, peu de chiens et un milieu naturel accueillant entre la mer du Nord et une immense forêt boréale. Tout ce qu'il faut pour une semaine de voyage typique au cœur de la Suède avec son chien. Et le must, c'est qu'il s'occupe de tout. Organisation des randonnées, du logement, des repas des humains, etc. Vous n'avez qu'à profiter. Retrouvez toutes les infos sur son site, charlarisa.com. Hello à tous et bienvenue sur le podcast TWIP, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. Deux lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Carla au micro de TWIP. Carla est l'heureuse humaine d'une meute de 7 chiens, 7 chiens nordiques. Elle nous partage aujourd'hui son organisation au quotidien, mais également en voyage pour pouvoir prendre soin de tout ce petit monde et bien profiter en tant que famille nombreuse. Carla pratique également plusieurs sports de traction dont elle nous parlera plus en détail. Si avoir plusieurs chiens te tente ou attise simplement ta curiosité, je t'invite vivement à écouter cet épisode jusqu'au bout qui est vraiment très inspirant. Hello Carla, comment vas-tu ?
Eh bien salut, ça va plutôt bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui.
Bah tout pareil, surtout que c'est un épisode un peu particulier, j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais en fait toute la première partie tu l'as déjà enregistrée avec Claire sur le podcast La Niche, du coup aujourd'hui on va aller assez rapidement sur les présentations vu que bah, tu as une grande famille de loulous et on va en parler assez rapidement, mais voilà, si vous voulez plus d'infos sur Carla et sa grande famille avec vraiment des infos un peu plus précises, je vous invite à vous retrouver sur le podcast de La Niche de Claire et c'est l'épisode, je sais pas combien.
C'est l'épisode 46.
Ok, eh bien rendez-vous sur le podcast de La Niche sur l'épisode 46 pour avoir tous les détails sur la vie de Carla et sa meute. Mais on va quand même faire une petite présentation.
Oui, carrément, carrément. Bah écoute, donc moi c'est Carla, j'ai 26 ans et je vis en Ardèche depuis un peu plus d'un an avec mon copain Jean-Philippe. On est tous les deux issus de la restauration et du coup, on habite avec nos 7 petits loups. Donc voilà, Nikita, Polaris, Kaya, Sanka, Skadi, Sven et Tyr. Bah, même moi, je bug des fois. Non. Mais je repense, j'y pense. Tu sais, c'est comme quand on compte les enfants, quand on fait des sorties scolaires.
Ouais, j'imagine. Déjà, quand t'as un ou deux chiens, t'es un peu là. Ok, il est bien là, il est bien là, il est bien là. Là, mais alors 7, j'imagine pas si t'es en promenade, tout le monde en libre, en forêt ou quoi, ça peut être un peu compliqué à gérer.
C'est ça. Même le soir, quand on les rentre, style hier soir pour faire dodo, j'étais encore en train de les compter. Genre, est-ce que tout le monde est bien là, dans la maison, en train de dormir ? Ouais, c'est bon. Et mais vraiment, je dois les compter au moins 2-3 fois à chaque fois pour être sûre d'avoir oublié personne. Parce que, ouais, on sait jamais.
Tu m'étonnes, tu es un peu comme une animatrice en colonie de vacances, quoi. Sauf que c'est plein de loulous.
Exactement.
Rapidement, donc, tes 7 chiens qui sont à peu près tous de la même race ?
Oui, c'est ça. Alors, on a exactement 3 vrais huskies, donc 3 huskies bluff, on peut dire. Enfin non, pas vraiment love parce qu'on en a une qui ne l'est pas, mais bref, qui pourrait l'être. Donc 3 huskies pure race, on va dire. On a une croisée husky, samoyède et malamute. Okay. Et on a du coup 3 laïka de Yakouti. Donc une petite parité quand même entre tous, entre on va dire les huskies et les laïka.
Ouais, mais dans tous les cas, c'est 7 chiens de bonne taille, on va dire.
C'est ça, 7 chiens nordiques qui font tous minimum 22-23 kilos et jusqu'à 30 à peu près.
Je trouve que ça paraît être des chiens plus lourds que ça, mais je pense que le poids y est pour beaucoup.
Ouais, exactement. Je pense que par exemple, des chiens comme Sanka et Sven qui font une trentaine de kilos, je pense que sur une autre race comme du berger, par exemple, je sais pas, un malinois ou des choses un peu plus costauds, on va dire. Je pense que sur des chiens comme ça, on serait plus à 40 kilos ou pour la taille, je veux dire, tu vois, pour la proportionnalité. Je trouve qu'ils sont plus léger qu'on le pense, et je pense que c'est en partie dû à la sélection et au fait qu'ils soient plus légers pour courir, par exemple, dans la neige, etc. Donc ils sont grands, puissants, mais très légers, par contre.
Et alors, la grande question que j'imagine que tout le monde te pose, ou en tout cas assez régulièrement, tu me l'as déjà un petit peu expliqué de comment ça s'est fait pour avoir ces 7 loulous, qu'au final, c'est vraiment fait au fur et à mesure, mais il y a quand même eu un moment où t'es passé de famille avec un chien, deux chiens, trois chiens, à famille... avec beaucoup de chiens, enfin en tout cas famille nombreuse de chiens. Qu'est-ce qui t'a amené à adopter 7 chiens ?
Ben écoute, au début, clairement, c'était pas le projet, on va dire. On a eu nos premiers chiens un peu comme tout le monde, je pense, voilà, par envie, etc. Mais par la suite, on a vraiment compris que bah, ce qu'on voulait avant tout, c'était vivre voilà, avec beaucoup de chiens, en fait. Plus que 3 ou 4. On gardait beaucoup de chiens à l'époque. On faisait de la pension, notamment. J'avais passé mon AKCED et tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment de but financier ou professionnel, en tout cas, derrière ça.
Est-ce que tu peux définir ce que c'est l'AKCED pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Alors, l'AKCED, c'est une attestation, en fait, qui permet à toute personne de pouvoir pratiquer dans le milieu canin. Donc, que ce soit de la pension, de l'éducation... voilà, des choses en rapport avec le milieu canin. Il faut bien savoir par contre que ce n'est pas une formation, c'est une certification qui permet de travailler, mais c'est en aucun cas formateur, on va dire. Voilà, c'est vraiment juste pour avoir le droit, entre guillemets, mais pas pour apprendre. Et j'ai aussi fait une formation d'assistante vétérinaire pendant 2 ans, donc j'avais aussi des cours d'éthologie, de comportement, d'éducation, donc voilà, j'avais un petit bagage, on va dire, derrière moi, qui m'a permis, plus tout ce que j'avais pu apprendre à côté, qui m'a permis de le passer sereinement, et surtout aussi d'être à même de gérer les loulous qu'on gardait, tout simplement, parce que c'est pas rien non plus. Mais voilà, on n'avait pas pour idée d'en vivre, ou que ce soit vraiment... Notre revenu principal, on avait tous les deux notre travail, donc c'était vraiment par plaisir, en fait, et on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas avoir nos propres chiens à nous, parce qu'à l'époque, quand on a commencé la pension, au tout début, on en avait déjà 2, il me semble, on avait fait un petit peu déjà, et après 3 ou 4, enfin voilà, on avait quand même déjà pas mal de chiens à nous, et on en gardait bien 2, 3, voire plus, donc voilà, on a quand même eu l'habitude d'être entouré de plein de loulous, on adore ça, on adore les balades, les accompagner au quotidien, enfin vraiment tout quoi. Vu qu'on kiffait, on s'est dit bah pourquoi pas grandir la famille, ça s'est quand même fait petit à petit, hein, pour ceux qui écoutent, ils verront ça dans la niche, mais il y avait quand même cette volonté au bout d'un moment d'avoir une grande famille.
Ok. Et t'as pas eu de crainte particulière justement par le fait d'avoir beaucoup de chiens ?
Alors déjà, il faut savoir qu'on fait toujours très attention à l'intégration d'un nouveau membre de la famille. Quand on intègre un nouveau loulou dans le groupe, c'est toujours si derrière c'est ok avec les autres et si tout se passe bien, entre guillemets, enfin, on va dire dans la globalité. Donc si on le fait, c'est que y a pas de stress ou de crainte derrière. Tu vois, justement, si j'ai le moindre doute, on le fait pas. Parce que c'est hyper important, je pense, que le nouvel arrivant, il arrive déjà dans une famille qui soit stable et équilibrée. Et c'est important aussi pour nous d'être prêts à 100%, quoi, parce que c'est pas rien. Donc voilà, faut que tout le monde soit dans de bonnes conditions, on va dire, je pense. Enfin, en tout cas, c'est nous, notre vision des choses. On n'a pas envie de mettre ceux qui sont déjà là en difficulté, et nous aussi, du coup. Donc si on le fait, c'est vraiment qu'on est sûr à 3000% qu'on peut gérer sans que ce soit... pénalisant pour nous, tu vois ce que je veux dire ? On anticipe énormément, en fait.
Ok, trop bien. De toute façon, toutes ces questions d'intégration d'un nouveau membre de la famille, d'éducation, etc., t'en parles aussi dans la niche. Nous ici, on va plutôt s'intéresser donc au voyage et aux activités, c'est tout le but du podcast Twip. Et j'ai un tas de questions justement sur ton organisation quand tu voyages avec autant de loulous. Alors je sais que c'est pas forcément le truc que vous faites le plus de voyager tous ensemble, mais t'es déjà partie avec eux et tu projettes de partir d'ailleurs pour un grand projet tout bientôt. Donc j'imagine que c'est une grosse, grosse organisation. Donc déjà, avant de commencer n'importe quelle partie de l'organisation, moi la grande question c'est le transport. Tu vois, comment tu voyages avec 7 chiens ?
Je pense que sur ce sujet, on n'est pas les plus organisés en fait. Pour tout avouer, première chose, on n'avait pas de véhicule jusqu'à l'année dernière, et vraiment jusqu'à fin d'année dernière, donc c'est très très récent, c'est-à-dire que jusqu'à notre emménagement en Ardèche, en fait, on n'avait pas de voiture.
D'accord, vous faisiez comment du coup ?
En transport en commun, en bus, à pied.
Avec les 7 en même temps ?
Ouais, enfin du coup on en avait 5 et 6 à l'époque, mais effectivement tout en transport, donc après voilà... Les chiens ont toujours été habitués à nous accompagner partout dans notre quotidien, à prendre le bus. On est allé sur Paris, donc le train, le métro. Vraiment tout type de transport en commun, je dirais. Même les gros bus de campagne et tout. Enfin, vraiment tout. Même l'avion en cabine, enfin pas en soute, je veux dire. On a eu tout type d'expérience de transport en commun. Ça s'est toujours bien passé. Et du coup, on avait nos petites habitudes. C'était même pas une nécessité forcément pour nous à l'époque d'avoir une voiture. C'est quand même bien plus pratique, hein, on va pas se le cacher quand on en a autant. Mais j'y ai trouvé pas mal d'avantages, notamment le fait qu'il y ait toujours ce petit temps de transport où on marche quand même. Hein, même si on prend les transports, t'as quand même de la marche, etc. Je trouve que c'est des petits moments avant la balade, tu vois, qui sont sympas parce qu'on a quand même 15-20 minutes, voire 30, où on marche, on prend le bus ou le tram, où les loulous, ils peuvent déjà faire leurs besoins hygiéniques, se détendre un petit peu, et tu vois, comme ça, on arrivait en balade, et c'était pas mal. Et après, pareil, petit temps de décompression, on va dire. Alors, tu me diras, on peut avoir pareil pour la voiture, mais l'environnement n'est pas le même et l'activité pas la même non plus, quoi.
Avec les transports, comme tu dis, c'est entre guillemets naturel, vu que faut que tu ailles jusqu'au transport que tu veux prendre, ton bus, ton train, n'importe quoi. Donc t'es entre guillemets obligé de marcher, alors que ta voiture, généralement, t'es pas obligé de marcher pour monter dedans.
Voilà, exactement. Donc ça faisait quand même comme un petit échauffement, tu vois, où ils pouvaient marcher un petit peu, se poser, mais... Voilà, c'est pas pareil que la voiture, effectivement, où juste tu sors de la maison, tu les mets dans le coffre, t'arrives en balade, tu les descends. Et du coup, c'était appréciable pour nous. Enfin, on aimait bien. Alors, bien sûr que c'était quand même pénalisant, on va pas se le cacher. Des fois où on pouvait pas rejoindre telle ou telle personne pour balader ou faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est un peu frustrant, forcément. Et c'était peut-être le côté le moins appréciable. Mais à côté de ça, je regrette pas du tout. Et notre quotidien n'était pas pour autant plus pénible ou dérangeant. Enfin, voilà. Et par conséquent, comme on n'avait pas de voiture, tout ce qu'on devait faire autre qu'avec nos loulous, on le faisait aussi à pied, forcément. donc les courses, aller à la poste, les trucs un peu à la banque, tout ça. Et en fait... je profite toujours de ces occasions pour prendre un ou deux loulous avec moi, ou tous. Et c'était aussi l'occasion d'une petite sortie avec moi, même si c'était court ou pas axé sur eux, mais c'était quand même un partage ensemble. Donc ça, c'était cool aussi, et on continue aujourd'hui de le faire encore.
Tu disais un peu plus tôt que quand vous preniez les transports en commun, vous aviez des petits rituels, des petites habitudes. Est-ce que tu pourrais nous les partager ?
Je prenais toujours quelque chose avec moi dans les transports, surtout pour ceux qui pouvaient être un peu agités ou qui étaient impatients, en tout cas, d'aller balader. Déjà, le fait de marcher, comme je t'ai dit, ça pouvait permettre de faire leurs besoins, etc. Ça, c'est important, on ne se rend pas compte quand on envie de faire pipi ou quoi, ça peut être hyper dérangeant et donc engendrer des comportements. Donc voilà, déjà se détendre, ça c'était hyper important pour moi, qu'il y ait ces 10-15 minutes de détente, on fait pipi, on renifle un peu, on se détend, on sort tranquille. Ensuite, attendre le bus, le tram ou autre, il y a ce petit moment de pause, on va dire, d'accalmie, parce que du coup on est tout seul. Donc là en général, soit je m'asseyais sur le banc et j'attendais avec eux, soit je m'accroupissais par terre ou j'attendais sur le côté. Mais voilà, c'était toujours le moment de petite pause, parce qu'après, quand on rentre dans le transport, c'est pas une pause. Même si en soi, ils peuvent être assis ou couchés, ça reste hyper stimulant pour eux. Il y a beaucoup de monde, ça bouge. Notamment le bus, ça tremble, ça fait énormément de bruit et tout ça. Donc ce petit temps, on va dire off, c'est quelques minutes parfois off avant de rentrer dedans. C'était l'occasion de se poser tranquille, de souffler. Et quand on rentrait dans le transport...
Voilà, je m'assois toujours et après, je les place à côté de moi. Et souvent, il y en a un entre mes jambes, un devant, un à ma gauche.
Un à droite, un au-dessus.
C'est ça. Et après, en fait, ça dépend vraiment du chien et de comment il est. Mais voilà, j'ai toujours de quoi leur donner à boire, bien sûr. De quoi renforcer si besoin. Un petit truc à mâchouiller s'il y a besoin de décharge ou quoi. Un petit jouet. Enfin, voilà. J'ai toujours un petit peu le sac de Mary Poppins avec tout ce qu'il faut pour gérer si besoin. Et bien sûr, si je vois le moindre problème ou enfin, quoi que ce soit, je sors.
Donc au final, même pour toi, ça doit être super fatigant d'être vraiment à l'affût des moindres signes qui peuvent montrer un inconfort chez tes chiens ou quoi.
Ouais, après, je pense que c'est... Enfin, oui et non, en fait, parce que je le fais, je pense, naturellement, en fait, et c'est pas gênant pour moi. Enfin, voilà, je conçois que c'est hyper, déjà, original, on va dire, pour eux, de faire tout ça. Donc je m'adapte et vraiment, ça me pose pas de soucis. Et franchement, on y a été par étapes avec tous et même ceux pour qui ça pouvait être peut-être un peu compliqué, on a toujours réussi à faire en sorte que ça soit quand même zen le moment du transport. Donc honnêtement, ça n'a jamais été hyper problématique pour nous.
Ok. Et tu t'es jamais fait refuser l'accès à un transport du fait que t'aies plusieurs chiens?
Alors si, ça arrivait très sincèrement, parce qu'on a vécu au moins bien 4 ans à Bordeaux, ça a dû m'arriver. Deux ou trois fois, peut-être, honnêtement, sur 4 ans. Donc, c'est pas beaucoup au final, sur, on va dire, la globalité. Après, par contre, j'imposais pas non plus quand je sentais que c'était pas forcément adapté. Ça m'est arrivé parce que du coup, les loulous venaient aussi avec moi au travail. Mais ça arrivait le soir en sortant du travail que des fois, je laisse passer deux, trois bus parce qu'il y avait trop de monde et que je savais que. Je gênerais les gens, les loulous, ça pourrait aussi les oppresser un petit peu. Donc voilà, c'est pas grave, on attend, on marche un peu dans le quartier. Mais voilà, en fait, j'anticipe énormément au quotidien à peu près tout avant qu'il y ait des problèmes pour justement nous pas nous mettre en difficulté. Mais voilà, après ça arrivait, hein, mais c'est pas grave. On a pris le transport d'après. Des fois, c'est pénible, mais voilà, j'ai quand même jamais eu de soucis à ce niveau-là de vraiment marquant. C'était pas handicapant, en tout cas, au quotidien, et je me posais même pas la question de si je pouvais le faire ou pas, quoi.
Justement, ça te stresse pas, cette idée de dire bah, j'ai plusieurs chiens, je vais aller à, entre guillemets, à la confrontation du monde ou en tout cas de lieux où ils sont pas
Oui.
forcément ultra bien tolérés, de dire bah voilà, je sais pas trop comment je vais être accueillie dans tel endroit du fait que j'ai plusieurs chiens.
Ouais. Alors déjà, j'essaie toujours de me renseigner sur les endroits où je vais, sur les conditions d'accès, si c'est autorisé ou pas, dans quelle mesure, s'il y a besoin de la muselière. Par exemple, à Bordeaux, les chiens peuvent prendre le transport du moment qu'ils sont en laisse. Donc voilà, se renseigner sur les règles et puis demander. Encore une fois, dans cette idée d'anticipation, par exemple, en général, je vais voir le chauffeur ou la personne qui tient un magasin, enfin bref, la personne en charge, et je demande si ça dérange que je sois là avec les chiens, s'il y a un endroit peut-être qui est préférable, donc là je pense au bus par exemple, s'ils préfèrent que je me mette au fond ou à un endroit spécifique pour pas gêner. Enfin voilà, je pense que c'est important de parler avec les gens et justement en essayant de montrer qu'on est de bonne volonté et qu'on ne veut pas gêner. Je pense que ça marche plutôt bien d'essayer de parler avec les gens. Alors, je dis pas que ça marche toujours, mais en tout cas, nous, ça nous a plutôt bien réussi pour le moment. Même quand on allait faire les courses, au début, les loulous, je les laissais devant le magasin. Et au final, vu que c'était notre épicerie de quartier, on va dire, et qu'on y allait tout le temps, finalement, j'ai eu le droit de les mettre à la caisse. Et du coup, qu'ils puissent attendre là, enfin, quand même assez improbable, dans un carrefour ou un truc comme ça. On a pu faire. Tellement de choses qu'on n'aurait pas pensé, je pense. On a fait des labyrinthes qui n'étaient pas axés pour les chiens, hein, mais où on avait demandé, c'était OK. Donc on avait pris les loulous. Enfin, voilà, il y a plein de trucs originaux, on va dire, qu'on a quand même réussi à faire malgré les loulous. Et c'est toujours passé quand même. Donc, même pour tout ce qui est location, Airbnb ou les choses comme ça, voilà, c'est peut-être plus compliqué, c'est sûr, mais en tout cas, ça a toujours été possible pour nous. Et vraiment, nous, notre vie, c'est nos loulous. Et du coup, c'est hyper important pour nous de pouvoir les emmener partout. Et du coup, voilà, on se pose rarement la question et vraiment, on les prend systématiquement, quasiment partout. Et en tout cas, on essaye.
Ok, on reviendra juste après sur les hébergements, etc. Je voulais juste finir sur les moyens de transport, les moyens de locomotion, puisque tu en as parlé un petit peu aussi, la marche. C'est aussi un moyen de locomotion, ne l'oublions pas.
Oui, tout à fait.
Et je trouve ça super intéressant de se dire, bah, enfin, tu vois, on va apprendre la promenade en laisse, etc. à son chien. Donc quand on en a un, ok. Quand on en a deux, pourquoi pas. Quand on en a sept, comment on fait pour apprendre au petit dernier, tu vois, la promenade?
Ouais.
Parce que je sais pas, enfin, j'ai du mal à visualiser si à chaque fois, tu vois, t'as tes six ou sept laisses avec tous tes loulous. Enfin, tu vois, comment t'organises tes promenades quand t'as sept chiens et comment tu apprends au dernier arrivant la promenade?
Ben déjà, comme je l'avais dit un petit peu en amont, on n'intègre pas si un nouveau loulou, tu vois, si on a des difficultés qui sont déjà présentes dans la famille. Donc ben comme ça fait partie de notre quotidien et que c'est quand même plus agréable, donc marcher, hein, j'entends, avec les loulous en laisse, etc. Ben forcément que valoriser la marche en laisse ou en longe, c'était hyper important pour nous. Première chose, c'est qu'à chaque fois qu'un nouvel arrivant arrivait, on va dire que c'était OK. La marche en longe ou laisse avec ceux qui sont déjà présents dans la famille. Donc en fait, quand le nouvel arrivant arrive, première chose, c'est que je fais toujours pas mal de petites balades solo au début avec le nouvel arrivant pour valoriser énormément bah, sa marche en laisse, etc. Puis en fait, quand il incorpore le groupe, en général, bon déjà, c'est des jeunes chiens, en général, en intégration. Au début, j'attache pas forcément parce que avant la balade, ça serait éventuellement le mettre en échec. Donc, si possible, en libre. En général, quand ils sont jeunes, c'est un peu plus simple en plus. Et par exemple, au retour, par contre, là, je vais en profiter pour mettre en laisse ou en longe avec les autres et en profiter pour renforcer tout ça. Si jamais j'ai pas la possibilité de le laisser en libre parce qu'on est vraiment en centre-ville ou quoi que ce soit, qu'il y a des routes, tout ça, bah, je vais demander par exemple à mon copain de marcher un petit peu devant avec. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas le mettre en difficulté en fait et potentiellement le mettre en laisse direct avec les autres, ça le mettra en difficulté. Alors oui ou non, on en a eu que j'ai pu direct mettre avec les autres et qui se sont un peu calqués en fait sur le rythme du groupe. Et donc c'est voilà, c'est venu assez naturellement. Je pense que ça dépend aussi des chiens, mais voilà.
Pourquoi c'est important pour toi de commencer en libre plutôt qu'en laisse?
Libre, ça peut être longe qui traîne au sol, hein, tu vois aussi. Mais en fait, tu vois, je prends Tyr par exemple, c'est le petit dernier. Concrètement, lui, si je le mets en laisse en début de balade avec les autres, il va avoir envie d'aller devant et tout. Enfin, ça le met en position de difficulté, donc il va tirer, donc commencer à prendre de mauvaises habitudes, entre guillemets. Pour moi, le laisser, en général, en fait, c'est pour ça que je disais que nous aussi, enfin dans mon expérience, on a eu pas mal de jeunes chiens ou chiots, et en général, à cet âge-là, ils s'éloignent rarement, surtout nous, on a un gros groupe, tu vois, donc ils se rattachent vachement à nous. Alors après, ça dépend énormément de l'environnement, je veux pas donner de mauvaises idées ou quoi que ce soit. Là, je parle de nous et de Tyr en l'occurrence, parce que là où on habite, par exemple, il n'y a personne. Vraiment, c'est genre le no man's land. Donc concrètement, ça me permet de pouvoir, par exemple, le laisser en libre en début de balade dans mon quartier, faire notre petite balade dans la forêt à côté, et au retour, tu vois, le mettre en laisse pour valoriser ben, sa marche en laisse, tout simplement, avec les autres. Et que ce soit en tout cas plus facile. Clairement, c'est beaucoup plus facile pour eux après une bonne balade et tout ça. Et puis voilà. Mais après, ça s'adapte à chaque situation, bien sûr. C'est juste que je trouve que. Enfin, j'essaie toujours de trouver la solution qui ne mettra pas en difficulté le chien. Donc voilà, ça s'adaptera à chaque moment. Mais pareil, quand on était en ville, alors bien sûr, le temps d'arriver au parc, t'étais forcément obligé d'avoir un petit passage en laisse. Mais au début de la balade, je vais libérer en premier le bébé, tu vois. Il puisse faire sa balade tranquille. Et à la limite, au cours de la balade, je le remettrai en laisse quand je vois que c'est un peu plus chill et tout ça. Et à la fin. Et éventuellement, je vais garder les grands au début, que je sais que c'est complètement OK, et, enfin, en tout cas, qu'ils s'en foutent un peu. Je vais les garder en laisse, tu vois, le temps que le petit est en libre au début. Enfin, voilà, plein de petits aménagements comme ça, mais c'est vraiment du cas par cas, pour le coup. Mais toujours, voilà, dans cette idée de ne pas les mettre en difficulté, quoi.
OK. Et dans l'ensemble, en fait, les 7, ils marchent super bien en laisse, ils tirent pas, etc., quoi.
Oui, oui, donc voilà, c'est pas problématique pour nous de les prendre en laisse si besoin... Les 7 ensemble, voilà, c'est OK. Alors après, dans ce genre de configuration, je vais éviter tout ce qui est rencontre en laisse, etc. Même si de base, je l'évite tout court avec un seul chien. Mais voilà, ça, forcément, quand tu as 7 chiens, tu peux forcément avoir 7 fois plus de réactions, même si tout est OK pour eux. Donc... je fais un peu plus attention, je me décale si besoin, etc. Mais en tout cas, c'est pas une difficulté pour nous de les avoir tous en laisse, voilà, en même temps.
Oui, bah c'est super intéressant ce que tu dis là, puisque j'avais fait un épisode avec une famille où il y a 2 chiens, et c'était 2 chiens qui étaient habitués à être seuls à la base. Et
d'accord.
Donc, en gros, la maîtresse avait un chien et le maître avait un
oui,
chien, et ils
okay.
sont mis ensemble, et du coup,
d'accord.
voilà, 2 chiens.
Et, famille recomposée.
Et en fait, leur ouais, c'est ça. Leur comportement ont vachement changé à tous les deux parce que ils ont commencé à être plus une meute, tu vois, qu'un chien individuel. Et du coup, bah, les rencontres avec d'autres chiens pouvaient être plus difficiles.
Ça pourrait clairement. Alors, c'est un truc qu'on a essayé de travailler et d'anticiper, en tout cas. Voilà, ça a été énormément renforcé et tout ça déjà individuellement. Et puis après, par contre, on a dû aussi travailler ensemble. Enfin, travailler. Nous, on ne fait jamais vraiment de session de travail, mais en tout cas, commencer par en prendre 2 ensemble dans un environnement plutôt tranquille où on va voir des chiens peut-être, mais de loin, etc. Valoriser le calme et la détente, en tout cas. Et puis petit à petit à 3, 4, mais pour le coup c'est vrai que t'auras beau travailler les chiens individuellement, si tu le fais pas ensemble au bout d'un moment, ça ira pas non plus quoi. Et ça ça vaut pour tous les sujets, que ce soit la marche en laisse, que ce soit le rappel, que ce soit la prédation, c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler individuellement, c'est quand même important, mais c'est aussi hyper important de le faire en groupe, donc voilà, et plus tu auras d'expériences positives en groupe, plus ça sera efficace sur le long terme quoi, parce que des fois t'auras beau avoir des chiens qui sont nickel tout seul, ensemble ça peut être plus compliqué quoi.
Ok, donc si on revient un petit peu sur le voyage, comment tu t'organises du coup quand tu pars avec toute cette petite famille, enfin tout ce petit monde, donc tu vois, en termes de trouver un hébergement, gérer l'alimentation,
oui.
Parce que là, quand tu prends un chien, il faut prendre sa petite ration de croquettes ou de pâté ou ce que tu lui donnes, n'importe, mais j'imagine quand on a 7 ça fait
c'est plus compliqué
partie,
en plus de ça jusqu'à maintenant on était au barf, donc on était au cru pour les loulous, on est en train de faire des travaux dans la maison, donc on est repassé aux croquettes le temps, on va dire d'un petit réaménagement avec des nouveaux congélateurs, etc., pour justement la viande des loulous. Mais effectivement, du coup, c'est un peu toute une organisation. Alors, ça dépend des périodes. Très récemment, donc avec les 7, quand on devait prendre la voiture, on les mettait tout simplement dans la voiture. Après c'est un peu le jeu du Tetris, c'est-à-dire que donc là on est aux croquettes actuellement, donc c'est plus simple clairement pour voyager avec autant, donc voilà, on avait un sac ou deux de croquettes de réserve dans la voiture, et puis nos affaires, les loulous, et voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus parce qu'on n'a pas une organisation de folie en fait, mais par contre je pense qu'il y a plein de petits trucs mis bout à bout qui font que ça fonctionne, et notamment le fait qu'ils aient une très bonne entente entre eux, que ce soit pas source de stress, parce que forcément on n'a pas un gros véhicule, enfin pour le moment en tout cas, on a une petite familiale quand même, mais voilà, du coup ils sont quand même assez proches dans la voiture, donc voilà, ça déjà c'est un point je pense qui valorise la bonne ambiance entre guillemets du trajet. La voiture, ça a été aussi bossé avec tous, enfin, en tout cas que ce soit pas source de stress ou autre, on n'en a pas qui sont malades non plus, enfin plus. Voilà, globalement en fait, pendant tout le trajet en voiture, ils se posent et ils dorment. Alors, petite astuce, on laisse toujours un petit filet d'air ouvert sur les vitres de derrière de la voiture pour qu'ils aient toujours un peu d'air et tout ça. Ça, ils aiment bien. Mais sinon, rien de foufou en soi sur la partie vraiment transport. À terme, on aimerait bien avoir quelque chose avec des kennels et tout ça pour que ce soit un peu plus confortable pour eux, pour nous, etc. et plus pratique. Pour ce qui est des logements, là dernièrement, je vais parler dernièrement encore, on est parti dans le sud-ouest, dans nos familles. Donc on était tout simplement hébergés dans nos familles, donc d'abord chez mon copain et puis après chez mes parents. Et là, écoute, c'est totalement ok pour mes parents de nous accueillir avec nos 7 chiens, donc on n'a pas du tout eu de soucis pour le logement. Et après, quand on doit louer des choses, donc l'année dernière, par exemple, le temps que notre maison se finisse de construire, on avait dû louer un Airbnb. Donc voilà, on a réussi à trouver un Airbnb qui était OK avec les chiens. Après, je prends toujours bien le temps d'expliquer le contexte. Donc les chiens ont l'habitude de bouger, d'être en intérieur. Enfin, voilà, je précise rarement la race au début, honnêtement, parce que y a beaucoup d'a priori. Et puis surtout, on se dit si gros chien, waouh. Alors qu'en réalité, en fait, quand ils sont dedans, ils vont se poser et dormir, donc ils vont pas tant poser de soucis. Toujours le dialogue, un peu comme on en parlait dans le sujet précédent, donc discuter avec les gens, leur expliquer, voilà, et puis après, bien sûr, que s'il y a le moindre problème, je prends en charge tout ce qu'il faut. Après, j'explique bien aussi que nous... quand on part, c'est aussi pour que le loup soit avec nous. Donc là, on est beaucoup en balade, etc., en rando. Même quand on bosse, on en a toujours un ou deux avec nous. Enfin, voilà. Donc, on essaie de rassurer, en tout cas. Mais on n'a jamais dû, par exemple, annuler un voyage parce qu'on ne trouvait pas le logement ou quoi que ce soit.
Au final, ça ne vous empêche pas de voyager, d'avoir cette loulou, quoi.
Après, moi, je suis quelqu'un de très... Il y a peu de choses qui peuvent, on va dire, m'agacer ou m'énerver ou m'embêter. Et puis, je suis assez... Enfin, tu vois, je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis assez optimiste. Donc, même si on va me dire non, tu vois, je vais me dire « Oh, mais c'est pas grave, t'inquiète. On va trouver autre chose. Enfin, on va trouver une solution. » Et on en trouve toujours. Donc, j'ai peut-être une bonne fée qui m'aide quelque part. Mais je me dis toujours que c'est possible. Et voilà, même s'il y a des refus, des échecs, je comprends les gens aussi. C'est quand même un peu étonnant, quoi. Donc voilà, j'essaie de faire le maximum au niveau de la communication avec les gens et d'être positive et tout ça. Et pour le moment, ça nous a plutôt bien réussi.
Trop bien. Quand on s'est appelé pour organiser cet épisode, tu m'as dit aussi que tu faisais du sport de traction avec tes loulous.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu veux qu'on en parle ?
Ben écoute, avec plaisir. Donc les sports de traction, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement le fait de mettre... un harnais donc spécifique à son chien qui va ensuite pouvoir tracter, tirer, donc que ce soit un humain, un vélo, une trottinette, un kart, un traîneau, voilà, les possibilités sont diverses et variées. Il y a aussi du skate, du roller, enfin vraiment tout. Je pense qu'il y a même des trucs qu'on pourrait encore inventer. Donc voilà, mais c'est vraiment le principe de le chien est devant et va tirer quelque chose.
Ok, et du coup, toi, t'en pratiques avec tes loulous, lesquels tu fais ?
Actuellement, on fait beaucoup de randonnées, enfin on en a toujours fait, mais en ce moment, c'est vraiment l'activité principale en traction qu'on fait. Je cours aussi avec eux, donc du canicross. L'intérêt de la rando, c'est qu'on peut partir avec toute la famille, par exemple, ou plusieurs loulous en tout cas. En canicross, très sincèrement, je n'ai absolument pas les jambes pour en avoir deux ou trois. Donc voilà, c'est une activité plutôt en solo avec un des chiens. Après, je peux en avoir d'autres en libre, mais voilà, j'aime bien aussi avoir des petits moments des fois privilégiés, on va dire, donc c'est aussi l'occasion. On fait aussi du vélo et de la trottinette, c'est assez similaire. Voilà, et là pareil, on peut en prendre, du coup vu qu'on a les deux, on peut déjà partir tous ensemble avec mon copain, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Mais on en fait moins depuis qu'on arrive en Ardèche quand même.
Donc si tu pars en canicross avec l'un de tes loulous par exemple, tu laisses tous les autres à la maison ?
Ouais, c'est ça.
Et ils sont ok, enfin tu vois, ils te voient te préparer, mettre le harnais, ils doivent tous être en mode « trop bien » et tout, et ils sont ok que t'en prennes un seul et que tu partes avec lui.
Ouais, c'est un truc aussi qu'on anticipe beaucoup, enfin la solitude, les absences, les séparations entre tous, et c'est vraiment hyper important pour nous que ce soit ok, pouvoir partir avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc que... les loulous puissent rester à 5, 4, 3, 2, voire même 1 à la maison sans que ce soit stressant, frustrant ou quoi que ce soit. Que ça leur pose pas de soucis. Après, voilà, j'essaie de pas non plus provoquer le truc. En général, quand on va faire une activité, on laisse les loulous que l'on va laisser à la maison dans la maison. Et les loulous que l'on prend avec nous, donc pour la balade ou l'activité, on les met en dehors, donc dans le jardin, et on les prépare dans le jardin. Comme ça, tu vois, ça évite aussi le matériel. Je le prépare soit au tout tout dernier moment, soit très très en amont, mais rarement au même moment que je vais sortir les loulous, tu vois. J'essaye de dissocier un peu les moments, et ça me permet aussi de regarder, voir... Parce qu'après, ils ont aussi leur jour sans, hein, mais si je vois que, par exemple, je commence à préparer le matos et qu'il y en a un ou deux où je sens que voilà, ça les stresse ou qu'ils ont vraiment envie de venir et que ça va être potentiellement compliqué pour eux, je change mes plans, par exemple.
J'allais te demander comment tu leur apprends la discipline à chacun, mais j'imagine que ça se passe un peu comme tu l'as dit plus tôt, pour la promenade, vraiment de manière individuelle. Puis en intégrant le groupe, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, exactement. Donc après, pour l'attraction, ça peut être un peu différent parce que ça peut être au contraire intéressant de les faire démarrer une première fois avec les autres pour qu'ils soient confiants et qu'ils puissent aussi observer, imiter les autres, voilà, et être un peu intégrés à l'énergie, on va dire, du groupe. Là, pour le coup, ça peut être intéressant de presque faire l'inverse, de commencer une première fois ou deux avec les autres, et après pour peaufiner un petit peu ça et puis faire des entraînements un petit peu plus spécifiques à chacun, si on veut plus bosser les directions avec un tel ou certains rythmes, enfin bref, peu importe, ou certaines allures, mais le faire après du coup, et d'abord commencer en groupe. Tout seul, en fait, ils peuvent pas forcément comprendre ce qu'on attend d'eux. C'est pas forcément inné, ça peut, mais pas forcément. Il faut aussi qu'ils apprécient le truc. Donc voilà, c'est sympa, je trouve. Et puis, ils apprécient toujours de le faire avec les autres. En tout cas, de faire des activités plus globalement avec les autres. Donc je sais que ça va être une source de motivation énorme. Ça va leur montrer un petit peu, ils vont pouvoir observer les autres et voir qu'est-ce qu'on fait là. Puis si ça leur vient quand même naturellement, les booster encore plus. Donc voilà, pour débuter, pour débourrer, on va dire, c'est sympa de pouvoir le faire à plusieurs au contraire. Et je conseille d'ailleurs les gens qui veulent commencer de commencer en club ou ce genre de choses. C'est quand même plus sympa, je trouve, pour débuter.
Ok, et tu disais plutôt donc qu'il y avait un matériel spécifique donc au sport de traction. Est-ce que chacun de tes loulous a un harnais où il se le prête, entre guillemets, et est-ce que chaque discipline demande un harnais différent ?
Alors, c'est une super question. Donc déjà, je le dis, mais c'est hyper important de le faire avec un matériel adapté parce que les conséquences peuvent être quand même dramatiques, hein, sur le physique, etc. Tant pour l'humain que pour le chien, il y a aussi un matériel adapté pour l'humain, notamment en canicross ou en rando. Pour revenir aux loulous, ils n'ont pas forcément un harnais adapté à chacun, bien que, en fait, comme ils ont un peu tous des tailles différentes, au final, si. Mais par exemple, entre deux chiens qui ont la même taille, ça ne posera pas de souci de donner... un harnais à l'autre ou vice versa, et justement d'avoir autant de tailles différentes, c'est sympa aussi parce que on peut vraiment s'adapter à chacun, à chaque morphologie. Ça évolue tellement des fois entre deux mues, ils peuvent perdre une taille, en gagner une ou en perdre deux, enfin c'est hyper variable. Donc avoir autant de tailles, on va dire, à dispo, ça nous permet d'avoir toujours un harnais qui va bien aller à tout le monde, et ça c'est important. Au niveau des activités, tu peux adapter aussi les harnais suivant l'activité. Globalement, je grossis, hein, parce que sinon il faudrait aller un peu plus loin, mais il y a deux types de traction, on va dire, la traction haute et la traction basse. Donc traction basse, tout ce qui est traîneau, les choses comme ça, où tu vois vraiment la ligne elle va suivre le dos et la queue, et tu as des tractions plutôt hautes, comme en canicross notamment, où en fait la ligne va remonter, en fait, au lieu de suivre le dos, elle va remonter un petit peu. Donc tu as des harnais qui peuvent s'adapter aux différentes disciplines. Nous, très sincèrement, on utilise le même pour tout, parce que ça leur convient et que ça nous convient, et voilà.
Ok, t'as une marque de prédilection ou tu en utilises plusieurs ?
Alors j'en utilise plusieurs, j'en ai deux. mais on a quand même une petite prédilection pour Non-Stop, qui pour le coup a vraiment un gros panel de harnais différents, etc. Donc il y a vraiment de quoi trouver ce qui correspond à son chien, beaucoup de tailles, de demi-tailles, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Après, on a des harnais antipodes aussi qui sont très chouettes. Mais j'ai pas tant de prédilection. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver ce qui convient à son chien, dans lequel il est à l'aise. Pas hésiter à changer justement de marque, à essayer d'autres types de morphologie d'harnais. Enfin voilà, en se faisant accompagner par un pro, par exemple, style un ostéopathe ou quelque chose comme ça, qui pourra vraiment déterminer si le harnais correspond au chien. Mais voilà, c'est plus s'adapter au chien qu'une marque en particulier, je dirais, à trouver.
Ok, et toujours par rapport au sport de traction, tu parlais d'ostéo, est-ce que tes chiens ont un accompagnement spécifique pour qu'ils soient toujours en bonne santé, toujours en forme pour faire ces activités-là?
Ouais, ben écoute, on voit l'ostéo tous les 6 mois à peu près pour tout le monde, donc voilà, petit comme grand d'ailleurs, c'est aussi important pour les chiens, donc même s'ils font pas de sport, ils le voient quand même aussi. Donc voilà, nous on a l'ostéo qui vient tous les 6 mois à peu près à la maison, et bien sûr que s'il y a besoin ponctuellement, on le fera aussi. À côté de ça, on leur donne aussi des compléments, donc pour les articulations, etc. Quand on est sur des périodes où ils vont pas mal pratiquer de sport, on fait aussi très attention à leur hydratation. Donc les jours où, par exemple, ils vont pas mal courir ou on va faire une grosse rando, etc., on leur donne toujours une petite hydratation, on va dire, un peu plus appétante que juste un petit peu d'eau, et avec voilà, quelques petits compléments pour vraiment être en forme.
Ok, bah, je pense qu'on peut finir là-dessus, parce qu'en soi, on est déjà à une bonne heure, je pense, d'enregistrement.
Carrément.
Ou est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voulais que je revienne ?
Non, ce que je voulais dire, c'était que, tu vois, on vit chacun les choses différemment. Et moi, aujourd'hui, par exemple, il y a un chien qui peut vomir, pisser, bref, j'en sais rien, bouffer un coussin ou quoi que ce soit, je m'en fous, clairement. Je sais qu'il y a des gens... qui s'en foutront pas, et c'est ok, d'ailleurs chacun a sa sensibilité justement. Donc nous en soi on a 7 chiens, mais très sincèrement ils pourraient faire n'importe quoi que j'arriverais toujours à prendre à du recul et à passer au-dessus, et ça je pense que c'est juste dans ma nature d'être comme ça, faire attention à nos propres émotions, à nos propres ressentis. Et je parle beaucoup de ne pas mettre les chiens en échec, mais aussi de ne pas soi-même se mettre en échec, c'est hyper important, et de faire selon ses capacités. Voilà, donc je pense que c'est quand même un point important, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui pour moi sont ok, et qui peut-être pour d'autres personnes ne le seraient absolument pas. Pour moi, c'est pas une gêne tout ça, et peut-être que pour d'autres personnes, ça le serait. Donc voilà, ça reste quand même un truc hyper subjectif aussi, quoi.
Oui, de bien y réfléchir avant de se lancer dans une aventure à 7 chiens, quoi. Est-ce que tu as un peu des do and don't, tu sais, genre les choses à faire et à ne pas faire quand on adopte, enfin quand on a une famille nombreuse de chiens?
Ouais, bah carrément, carrément. Premier truc de don't, c'est, alors ça peut paraître un peu laxiste, mais ne jamais engueuler ses chiens. Ne jamais faire de choses qui pourraient porter préjudice en fait à notre relation avec, parce qu'il faut vraiment se dire qu'un chien c'est un peu comme un enfant de 2 ou 3 ans, il fera jamais quelque chose avec derrière-pensée, il a pas en fait la capacité mentale de se dire je vais faire ça en gros pour embêter ou quoi que ce soit. Donc je sais que c'est pas forcément facile, on peut avoir des réactions émotionnelles hein, sur le coup, moi aussi des fois ça m'arrive de m'énerver, mais ça doit pas être systématique. Et c'est important aussi de penser à ça avant d'acquérir un nouveau loulou. Est-ce que j'ai la patience, en fait, de supporter certaines choses sans forcément m'énerver ? Et pour le coup, je pense que c'est hyper important, parce que c'est hyper déterminant et impactant pour la suite. Et du coup, le doux qui serait, on va dire, à l'opposé, c'est vraiment, par contre, de valoriser tout ce qui est chouette, tout ce qui nous plaît chez notre chien. Tout ce qu'on va apprécier qu'il puisse faire, même ce qui peut nous paraître normal en fait ou facile. Par exemple, ton chien n'a pas pour habitude de gober tout ce qu'il trouve par terre en balade. Donc, en fait, tu vas même pas penser à lui dire que c'est bien quand il passe à côté d'un truc et qu'il le prend pas forcément. Peut-être oui, hein, mais pas systématiquement, je sais pas, c'est juste pour imaginer un petit peu l'idée. Je pense que c'est hyper important de justement valoriser tout ce qu'on peut. Je pense qu'on renforcera jamais trop. Et vraiment de le faire avec tout et n'importe quoi au quotidien. Notre quotidien, il est truffé d'occasions de faire ça. Donc voilà, vraiment valoriser tout ce qu'on peut tous les jours. Et ça, c'est vraiment mon gros conseil principal, on va dire.
Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent ?
J'ai pas rien qui me vient en tête. Peut-être en rajoutant en dernier sur les doux et don't, de penser à anticiper. On agit toujours en général après qu'on a un souci, tu vois, donc par exemple...
Donc on réagit.
Voilà, on réagit, c'est ça. Donc effectivement, on réagit, mais on anticipe pas toujours. Et pourtant, je pense que c'est ce qui aujourd'hui, nous facilite grandement la vie avec les 7, en fait. On essaie toujours d'anticiper les choses avant même que le problème ne soit présent, et c'est ce qui fait que au quotidien je ressens pas de gêne par exemple vis-à-vis des gens, etc., parce que tu vois, j'aurais déjà anticipé la chose. Pareil au niveau du comportement, on n'a pas de gros problèmes, je touche du bois, nos loulous sont bien dans leur patoune et tout ça, et ça c'est vraiment un grand bonheur pour moi, mais parce qu'on a aussi énormément anticipé de choses. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'on n'a pas eu des loupés, on a eu des soucis, c'est pas grave, on apprend, mais voilà, je pense que j'aurais aimé qu'on me le dise en tout cas à l'époque, quand j'ai eu ma première louloute, de vraiment être sur une éducation proactive en anticipant tout ce qu'on peut, pour vraiment rester dans un petit monde, on pourrait presque dire, de bisounours. En anticipant, on élimine quand même pas mal de soucis pour eux et pour nous.
Merci beaucoup, Carla. C'était super inspirant et très très chouette de pouvoir échanger avec toi. Si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie d'échanger un peu plus encore avec toi ou te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ?
Eh bien écoute, sur mon Insta, donc Sip Sister, je réponds toujours aux messages que je reçois. Si je ne réponds pas, faut pas hésiter à me relancer, ça peut arriver qu'il y ait des jours où j'ai moins de temps ou autre, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger, et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon compte. Donc si des personnes veulent m'écrire ou sont un petit peu curieux ou même se posent des questions, il n'y a pas de souci pour venir m'écrire sur Instagram.
Super. Merci beaucoup, Carla. Et puis, j'espère qu'on se verra très bientôt.
Ouais, merci à toi. Avec grand plaisir pour se voir une prochaine fois.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres TWIP en même temps que cet épisode, TWIP, TWIP, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de TWIP pour faire connaissance, et je vous dis à très bientôt.